réseaux, c'est un enjeu crucial et c'est un sujet politique, éminemment politique.
Bonjour Christian Baudu, membre fondateur de l'association Les Hydrophiles, co-auteur en qualité de scénariste avec la dessinatrice Julie Vaux de L'urgence de l'eau, enquête à la source, bande dessinée parue aux éditions Locus Solus, et Florent Patron, directeur éditorial des éditions Locus Solus, sont les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Les Hydrophiles sont nés en 2014, suite à une campagne électorale municipale. Et donc moi, j'avais...
Christian Baudu.
J'avais à cœur cette question de l'eau et je considérais que Redon était un endroit qui avait une configuration hydrogéographique assez exceptionnelle. Et que suite aux différentes inondations qu'on a subies, d'ailleurs on a encore subi une cette année, je suis bien placé pour en parler parce que j'étais aux premières loges, c'était pas une fatalité et que l'eau c'est au contraire une richesse. On est entouré de 12 000 hectares de marais. À Redon passe le plus grand fleuve côtier de Bretagne, la Vilaine, même s'il est modeste, dans lequel se jette à Redon même l'Oust, qui est la plus grande rivière de Bretagne, qui sépare d'ailleurs, on va dire culturellement et linguistiquement, la Haute-Bretagne de la Basse-Bretagne, puisqu'elle prend sa source aux environs du pays de Saint-Brieuc. Donc quand l'Oust fait sa méchante et que la Vilaine ne veut pas se laisser faire, on se retrouve effectivement à Redon débordé par les événements. Et j'ai toujours considéré, moi, que l'eau, ça allait être un sujet dans les années à venir. J'ai toujours vécu au bord de l'eau, je suis né au bord de l'eau. Et donc voilà, l'association s'est créée suite à cette campagne électorale. On a monté une troisième liste, qu'on appelle la liste de la troisième voie ou alternative. Et puis, donc pour moi, c'était l'occasion de donner une surface médiatique à ce projet d'un centre de l'eau, centre économique, scientifique et culturel de l'eau en Bretagne-Sud, en Pays de Redon. Donc voilà, on est toujours sur ce projet-là. C'est ainsi que l'association s'est cristallisée. Et on se veut aujourd'hui un peu, enfin sans être vaniteux ni prétentieux, mais un centre de ressources. On a dans notre association des gens très différents. On a un panel assez riche, des techniciens de l'eau, des gens qui ont travaillé donc, sur les questions de l'assainissement, potabilisation. On a un directeur de recherche du CNRS, émérite maintenant puisqu'il a pris sa retraite, mais qui est toujours actif sur la question de l'eau. On a une écologue, on a... quelqu'un qui a une maîtrise en sciences de l'éducation. Moi, je suis issu du milieu du cinéma. Je suis documentariste. J'ai fait quelques films sur la question de l'eau déjà. L'idée, c'était effectivement de militer pour voir l'émergence de ce centre. Et puis, progressivement, on a fait de l'éducation et de l'environnement. On a développé des outils, des mallettes pédagogiques et on organisait tous les ans les rencontres du ruisseau, qu'on organise toujours, qui se veut un événement prototype un petit peu de ce qu'on souhaiterait voir émerger, ce centre de l'eau, qui serait à la fois avec une entrée économique, scientifique, culturelle et politique, éminemment politique. Ce soit un agora qui permette de faire se rencontrer les habitants et puis les décideurs, les aménageurs du bassin de la Vilaine. Voilà.
C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.
En 2022, au moment de la sécheresse, est venu ce projet de la BD « L'urgence de l'eau ». Alors, on n'avait pas le titre à l'époque, le titre nous a été soumis par notre éditeur, Locus Solus. Et donc, on a développé en fait cette BD sur le thème de la fresque de l'eau qu'avait produit Gérard Gruot, qui était un des membres de l'association, qui est actuellement co-président. Et donc je suis parti de cette idée de fresque de l'eau. Donc la question c'était état des lieux de la ressource en Bretagne. Qu'est-ce qu'on a de différent ou de spécifique en Bretagne par rapport aux autres régions? Puisqu'en fait chaque territoire hydrographique est différent. Quelles étaient les pressions sur cette ressource, les menaces associées à ces pressions, et puis les priorités à mettre en œuvre pour pouvoir faire face aux enjeux climatiques. Et donc, je suis parti de cette architecture intellectuelle, en tout cas scientifique, et puis, en tant que documentariste, j'ai souhaité associer des acteurs identifiés en Bretagne sur la question de l'eau, notamment donc, le président du comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, qui est assez connu dans le milieu, donc de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. J'ai été voir des élus, notamment la vice-présidente de la région, Alexandre. J'ai aussi fait parler des gens des différents syndicats agricoles, puisqu'il faut savoir que l'agriculture, c'est quand même un des plus grands consommateurs d'eau. Alors, ce n'est pas eux qui prélèvent le plus d'eau, mais dans ceux qui prélèvent l'eau, c'est eux qui en consomment le plus. Enfin, l'agriculture consomme beaucoup d'eau pour l'abreuvement du bétail et puis aussi pour, évidemment, les cultures. Elles ont besoin d'eau, comme tout le monde le sait. Je suis aussi allé voir des gens du collectif Splend. C'est un collectif de journalistes qui font des enquêtes. Et puis, des intellectuels, des géographes, enfin voilà. Et puis, des pêcheurs professionnels. Donc, j'ai essayé, avec tout ce monde, de construire un road trip en inventant deux personnages qui sont donc Quentin et Gwena. L'idée étant de donner un petit côté fun et puis une dimension un peu romanesque à l'aventure, à ce road trip. Enfin, c'est essentiellement un corpus documentaire basé sur des prises de parole de ces différents intervenants que je viens de citer. Et on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle L'urgence de l'eau, dans laquelle on peut retrouver in extenso tous ces entretiens. Je crois qu'ils sont au nombre de 16.
L'eau peut-elle venir à manquer en Bretagne? Extrait de l'interview du géographe Yves Le Bailly, disponible sur le site de l'association Les Hydrophiles.
Je dirais qu'elle manque déjà. Elle manque déjà. La question, elle est déjà posée depuis longtemps. Disons que nous maintenons un approvisionnement en eau aux populations au biais d'artifices. Mais j'ai le souvenir que lorsque j'étais enfant, dans le pays de l'Orient, comme sur les îles, toutes les maisons avaient leur citerne. Dans nos sociétés actuelles, nous consommons énormément d'eau. Elle coule si facilement au robinet. Et comme je le dis souvent, un habitant qui est urbain qui prend une douche ne se pose pas la question de savoir d'où vient l'eau qu'il consomme à ce moment-là.
Dans la BD, il y a deux personnages centraux.
Oui, j'ai inventé ces deux personnages. Donc, Gwenna Talbeck, bon, on pourrait entendre Greta Thunberg, peut-être, si on a l'oreille un peu aiguisée. Donc, c'est une journaliste freelance spécialisée sur l'environnement qui rencontre Quentin. Alors, Quentin Tignac, il y a une petite consonance aussi, Tintin, Quentin Tignac. Et puis, c'est Tintignac, enfin, c'est une commune de Bretagne. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Il est accompagné d'un gros chien qui s'appelle Udor. Alors, pour aussi la petite histoire, Udor, ça veut dire l'eau en grec. Donc, je me suis un peu inspiré. Et donc, il se rencontre lors d'un cocktail organisé par l'éditeur, puisque lui, il est écrivain. Et puis, il est persuadé d'avoir écrit une somme absolument conséquente et incontournable sur la question de l'environnement et notamment de l'eau, qui s'appelle Un monde sans eau. Donc, MNDE sans O, ou la voyelle. Et donc, très fier de son coup. Enfin, bon, ça situe un peu le personnage. C'est-à-dire que, on va dire que c'est un grand adolescent ou un adolescent attardé, un peu caustique, goguenard. Et elle le rencontre et puis lui demande « Qu'est-ce que tu as pensé de mon livre ?» Elle dit « En fait, voilà, je trouve que c'était inutile de le faire. Si tu veux vraiment faire quelque chose de conséquent sur le sujet, moi, je veux bien te faire rencontrer en Bretagne des gens qui comptent dans ce milieu, qui vont t'amener des sources, des documentations plus solides. » Voilà. C'était un petit peu ça le leitmotiv de ce projet. Et donc, ils vont dans un road trip dans une déesse décapotable. Il faut savoir que la déesse, c'est pareil, c'est inspiré d'une goutte d'eau. Bertoni, il a imaginé une goutte d'eau lorsqu'il a conçu la ligne de la déesse. Et parallèlement, c'est une voiture que moi j'aime beaucoup, j'en ai eu une il y a longtemps, qui a d'ailleurs fini dans les inondations, comme quoi la boucle est bouclée. Et donc l'idée, c'est effectivement d'aller rencontrer ces différentes personnes, hein, ces différents acteurs professionnels ou en tout cas penseurs, intellectuels sur la question de l'eau en Bretagne. Et puis petit à petit, effectivement, il prend conscience de ces enjeux-là, quoi. Et donc voilà, je ne révèle pas la fin, je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a un petit clin d'œil à la fin aussi. Petit clin d'œil aussi de départ, c'est qu'il prend sa douche le lendemain matin, parce que le jour du cocktail, bon, il avait un peu bu, et donc le lendemain matin, il se réveille un peu avec la gueule de bois, il va prendre sa douche, puis il a oublié de payer la facture d'eau, donc il se retrouve avec les cheveux pleins de mousse, et il descend à l'épicerie à côté, chez Gisèle, pour chercher un pack d'eau, et c'est là qu'il rencontre Gwenna Talbeck. C'est là que commence l'histoire réellement. La BD démarre sur une dystopie en fait au départ, au lac de Guerlédan, où il imagine dans son rêve le lac vidé avec un espèce de tsunami qui submerge tout à un moment donné. Je voulais démarrer par une dystopie complètement onirique, de façon à résonner avec le titre, L'urgence de l'eau. Parce que c'est vrai qu'au-delà de cette anecdote un peu burlesque, on est quand même face à un vrai problème, c'est-à-dire, y compris en Bretagne, alors que ce n'est pas du tout intuitif, on pense être préserver des problèmes d'eau en Bretagne, parce qu'on dit qu'il pleut tout le temps, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de réserve. On est un territoire qui est très, très vulnérable, très fragile, parce qu'en fait, on n'a aucune nappe, ce qu'on dit inertielle, c'est-à-dire des nappes en grande profondeur, comme il y a dans le bassin parisien, en Normandie, etc. Nous, en Bretagne, on n'a que des nappes de surface. L'essentiel de notre eau, on la puise dans les rivières, dans les cours d'eau. À l'inverse du reste de la France, d'ailleurs. En France, c'est à peu près 30% dans les cours d'eau et puis 70% dans les nappes profondes. En Bretagne, c'est exactement l'inverse. On a quelques nappes un peu profondes, des failles, mais l'essentiel de notre eau est puisée dans les cours d'eau. Donc, elles se remplissent très très vite. mais elle se vide aussi très très vite. Donc comme on a une augmentation avec le réchauffement climatique, d'ailleurs Jean Jouzel le dit très bien, il nous a fait l'honneur de effacer la BD, et il paraît effectivement dans la BD, il intervient, il le dit très très bien, c'est-à-dire on va certainement avoir un même niveau de pluviométrie en Bretagne avec le réchauffement climatique, mais qui va être beaucoup plus concentré sur des périodes, c'est-à-dire on le voit d'ailleurs actuellement, hein, des orages très très intenses, et puis des longues périodes de sécheresse qui vont d'ailleurs augmenter. Donc sur ces périodes de sécheresse, on n'a pas de quoi tenir. En 2022, on a frôlé la rupture à plein d'endroits en Bretagne. C'est dû à différents phénomènes, déjà le réchauffement climatique, mais accentué, on va dire, par une vision politique de l'aménagement urbain. C'est-à-dire Rennes devient une métropole importante, on construit beaucoup dans les villes. C'est un choix fait par les politiques. Hein. De toute façon, c'est un, on va dire, un logiciel qui a été mis en place après la Révolution, surtout avec la Révolution industrielle, puisqu'en fait, les villes étaient les centres d'activité. Les mobilités arrivaient là, les gares, notamment à Nantes, où la manufacture de tabac était à côté de la gare. Et donc, on avait toutes les manufactures qui étaient évidemment liées aux infrastructures de transport. Donc, ça avait un sens de développer les villes. C'est là qu'était le travail aujourd'hui, avec le développement, justement, des mobilités, avec le télétravail, etc. La ville n'est plus le centre de polarisation de toutes les activités, même si elle le reste encore. C'est donc un choix politique de maintenir ça, alors qu'on a des possibilités aujourd'hui, au contraire, de revitaliser les territoires. D'ailleurs, en Bretagne, lié à cette question de l'eau, de cette ressource, cette particularité de la ressource en Bretagne, on avait un maillage des villes, ce qu'on appelle un polycentrisme, un maillage polycentrique des petites villes, des petites villes-centres, dont Redon fait partie, Pontivy, Ploermel, Carré, etc., Rostrenin, enfin on ne va pas toutes les citer bien sûr. Et donc on avait comme ça une répartition sur l'ensemble du territoire en fonction de la ressource, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépassait le seuil de saturation de la ressource, ben on créait d'autres villes ailleurs. C'est comme ça que s'est fait ce maillage en Bretagne. Aujourd'hui on va à l'inverse de ça, parce qu'en fait on fait énormément confiance aux interconnexions. L'interconnexion, c'est donc de mettre des réseaux partout. Je crois qu'en France, on a 1 million de kilomètres de réseaux, avec à peu près 20% des réseaux qui sont en mauvais état. Ça veut dire que sur 5 litres d'eau, on en perd un. On perd un litre sur 5 litres. Donc on a un gaspillage énorme avec cette interconnexion. Puis on y fait vraiment beaucoup trop confiance. On fait beaucoup trop confiance à ce modèle-là. Et donc il est discutable. Bon, il rend service, hein, parce qu'il y a des zones où on n'aurait absolument pas d'eau si on n'avait pas d'interconnexion. Mais en même temps, quand on a des captages aujourd'hui, notamment en Bretagne, avec ce modèle agricole productiviste qui est très délétère, voire mortifère, j'hésite pas à le dire, on a des zones de captage qui sont supprimées et qui ne sont plus du tout exploitables à cause de la pollution. Et puis on se dit, c'est pas grave, on ira prendre l'eau ailleurs. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des choses complètement absurdes. On a perdu notre lien à l'eau. On a perdu cette connexion qu'on avait, qui était en Bretagne d'ailleurs. On a encore aujourd'hui, je pense, une tradition sacrée à l'eau. Hein. Il y a quelque chose de très très fort. Pas seulement en Bretagne, mais en tout cas en Bretagne. Je pense aux fontaines guérisseuses, etc. D'ailleurs, il y a des projets actuellement de scientifiques sur la question des fontaines guérisseuses en Bretagne, savoir s'il n'y a pas une question de radioactivité, puisqu'on a du radon dans le sous-sol, et si ça ne pourrait pas jouer un rôle, alors à petite dose évidemment, de facteur de guérison. Voilà. Et tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une organisation territoriale qui ne va pas dans le sens de ce qui va se produire dans les années à venir. Donc il faut revoir complètement notre paradigme, puisque c'est le mot à la mode actuellement, paradigme, tout le monde emploie ce mot-là. En tout cas, notre façon effectivement de penser l'eau.
Il y a la ressource, mais il y a aussi la qualité de la ressource.
Oui, il faut notre qualité. Alors, le problème est le suivant, et c'est mécanique, le niveau des eaux de rivière notamment baisse. On a des débits en été qui sont assez bas, et donc mécaniquement on a une concentration d'autant plus forte en pesticides, enfin en pollution, parce qu'en fait c'est au prorata de la quantité d'eau. Notamment nous, dans la partie est de la Bretagne, on est beaucoup moins bien servi que dans la partie ouest, puisqu'en fait à Rennes il tombe à peu près 600 mm d'eau par an. Alors qu'à Brest, on est autour de 1200, donc on voit on a un coefficient 2, voire 2,5, suivant les années. Et ajouter à ça, effectivement, la pollution qui est liée à l'urbanisation et puis l'activité agricole qui est assez, assez forte. Et donc, on a un niveau des masses d'eau en région est de la Bretagne de 2%. La Vilaine, on considère que la qualité de l'eau est de 2%. Et l'objectif de l'Europe, avec la directive cadre européenne de 2002, on exigeait que les masses d'eau en France, notamment en Bretagne, puissent atteindre minimum 60%. Donc, on en est très, très loin. C'est-à-dire que c'est assez étonnant parce qu'une façon générale au niveau environnemental, on définit des seuils, on l'a vu avec la COP21, et donc on pense que magiquement, d'un coup de baguette, on va, à partir du moment où on l'a décidé, ça va se faire tout seul, mais c'est faux. Après, c'est vraiment des décisions qui doivent être courageuses, qui doivent être prises par les politiques, par les aménageurs d'une façon générale, et donc on voit bien aujourd'hui que les moyens ne sont pas à la hauteur. Le plan eau décrété par Emmanuel Macron en 2023, il n'est absolument pas à la hauteur des enjeux, et tout le monde le dit.
Christian Baudu, membre fondateur de l'association Les Hydrophiles, co-auteur en qualité de scénariste avec la dessinatrice Julie Vaux de L'urgence de l'eau, enquête à la source, bande dessinée parue aux éditions Locus Solus, et Florent Patron, directeur éditorial des éditions Locus Solus, sont les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
La maison publie beaucoup de BD ?
Une petite demi-douzaine, on va dire, par an. Voilà.
Florent Patron.
Après, il y a de la BD pure et dure, il y a du roman graphique. Là, on est plutôt, avec L'urgence de l'eau, face à un roman graphique. C'est une petite distinction par rapport à la bande dessinée classique que l'on fait aussi, c'est-à-dire vraiment la case avec une histoire, format plus classique, encore une fois. Et puis, enfin, il y a le domaine de l'illustré, avec des noms... Voilà, plus ou moins, on l'espère, connus, ou en tout cas dignes d'être connus du dessin, hommes et femmes, qui viennent chez nous faire des albums plutôt d'images, voilà, liés parfois à un texte d'auteur, etc. Et tout ça, toute cette galaxie illustrée chez nous, effectivement, chez Locus Solus, représente une portion intéressante, je crois, du catalogue, et a des liens avec d'autres portions du catalogue. Nous sommes généralistes, et donc, voilà, dans la catégorie jeunesse, par exemple, il y a des liens dans la catégorie, peut-être, essai aussi, dans la catégorie littérature maritime aussi, voilà. Voilà, je devrais citer celle-là aussi. Il y a des liens avec l'illustré de manière très générale.
Votre rencontre, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet ?
C'était vraiment immédiat. On a beaucoup de sollicitations, comme toutes les maisons d'édition. Beaucoup de projets arrivent, voilà, ils sont rangés en gros en trois catégories. La catégorie qui ne correspond pas du tout à ce que l'on peut faire, donc auquel cas, voilà, on répond pas, en tout cas, on va pas y passer du temps. La catégorie de ceux qui pourraient peut-être, donc on va passer un peu de temps. Et puis de la catégorie, enfin, de ceux, ben, c'est obligatoire, voilà, c'est évident. Alors cette catégorie-là, elle est rare. Elle est rare à trouver. C'est rare que, voilà, qu'un projet arrive comme ça et puis on dit bah, banco tout de suite. Voilà, c'est évident que c'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on fera. Pour L'urgence de l'eau, c'est qui ne s'appelait pas comme ça. Au tout début, il y a eu bataille sur le titre.
Quel était son premier titre, Christian ?
Christian Baudu.
Je trouve que L'urgence de l'eau, c'est très bien. Donc j'ai effacé tous les autres de ma mémoire.
Il ne s'appelait pas comme ça, en tout cas.
Je suis frustré.
Oui, eh ben, je vais vous retrouver ça peut-être dans ma mémoire.
L'eau va-t-elle manquer en Bretagne, quelque chose comme ça ?
Oui,
c'est trop long, ça.
L'eau va-t-elle manquer en Bretagne ?
C'était plus l'argument en fait, de la BD que le titre. Mais on savait que le titre était pas bon. Et donc, on comptait bien, d'ailleurs, sur l'éditeur, sur Florent et son équipe pour nous trouver quelque chose qui fonctionne.
Et il y a eu brainstorming, etc. Mais tout ça pour dire que lorsqu'il est arrivé, sous sa forme vraiment de synopsis et de quelques lignes au départ, etc., et des notes d'intention, eh bien, voilà, c'était évidemment quelque chose qui nous parlait beaucoup et pour lequel Christian... connaissant Christian, parce qu'on le connaissait un petit peu d'avant, Christian aussi, dans le cadre des documentaristes, de son travail documentaire, de photographe aussi. Et enfin, il arrivait aussi, voilà, avec une association, voilà, qui s'appelle Les Hydrophiles, qui était structurée, sur laquelle il y avait déjà des travaux, voilà, tout un travail intéressant qui avait été mené. Et voilà, donc on voyait tout le sérieux qu'il y avait derrière et on savait que ça allait être évidemment un bon sujet à développer. Après, voilà, je suis toujours aussi ébahi de voir la manière magistrale dont les auteurs l'ont développé très largement en toute autonomie. Et c'est pas tous les projets BD qui se passent comme ça, loin de là. Il y a des projets sur lesquels il y a plus de pourparlers en cours de route pour réaiguiller les choses ou en tout cas discuter voilà, des orientations. Là, ce n'était pas du tout le cas. Voilà, on les a laissés travailler sur un scénar qu'on a reçu, qu'on a lu. Voilà, tout était super carré. Et le découpage après en planche, etc. La scénarisation vraiment a été magistrale. Et donc l'exécution derrière, qui est plus qu'une exécution évidemment, de Julie, voilà, nous a tous bluffés au fur et à mesure qu'on recevait ces planches, sachant que c'était sa première BD au long cours. On l'avait connu, ces planches, plutôt sur des formats très courts, dans notamment la revue La Vilaine, revue collective de BD à Rennes, mais sur un long terme comme ça, avec 100 planches, 112, 115 planches, 115, eh bien, elle a dépassé nos espérances.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis.
À la suite du projet, de sa lecture, de son édition, est-ce que ça a modifié votre comportement par rapport à votre consommation d'eau ?
Ah oui.
Et si oui, il faut me donner un exemple.
Ah, alors oui, mais je crois effectivement qu'on apprend, c'est tout l'art, enfin tout l'intérêt de notre métier, et en tout cas d'être éditeur généraliste, que l'on ne sait rien à l'avance, bon, on sait un petit peu de choses, on est curieux, on lit la presse et puis on écoute la radio comme tout le monde et peut-être un peu plus que tout le monde pour justement être un peu voilà, curieux sur plein de choses et discuter après avec des projets d'auteurs. Bon. Mais on apprend, vraiment, on apprend profondément des choses, on réfléchit, on se pose des questions, on va creuser des choses, etc. Et puis on écoute les auteurs. Bon. Donc voilà, lisant tout ce que Christian dit sur l'eau, évidemment que ça nous a tous marqué, toute l'équipe d'ailleurs. Au niveau de l'entreprise, voilà, j'espère qu'on est en tout cas des bons élèves ou en tout cas pas des mauvais. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas encore passé le pas d'habitat en collectif qui crée des nouveaux systèmes d'eau usée, par exemple, etc., très performants, alors qu'ils sont voilà, évidemment beaucoup moins impactants sur l'environnement. Voilà, en tant qu'entreprise, en tout cas, nous, installés à Châtelain, on n'est pas encore passé à ça. Mais voilà, ça viendra un jour et on sait évidemment que c'est précieux. Et tu l'as dit tout à l'heure, alors, même si le Finistère est moins touché que le Haut-Bretagne, il est touché différemment. C'est-à-dire que c'est parfois le trop d'eau chez nous, dans le sens des inondations aussi, etc.
Il est touché plus par les pollutions des pesticides.
Absolument. Voilà, parce que le sous-sol, le granitique, enfin, tout ce qui est expliqué dans le livre aussi. Et puis tout simplement la pression agricole productiviste. Voilà, la ressource est évidemment un problème grave en Bretagne, voilà, alors même que c'est contre-intuitif. Et c'est pour ça que le ton titre premier, on y revient, « Et si l'eau venait à manquer en Bretagne ?» restait une bonne accroche. Parce que oui, c'est contre-intuitif de se dire que cette région la plus arrosée après la Normandie ou en même temps que la Normandie de France peut elle aussi connaître des problèmes d'approvisionnement demain.
Et donc vous, ça modifie un peu votre comportement ?
Oui, sûrement.
Pas du tout.
Non, mais bon, c'est vrai qu'on est alerté déjà depuis un moment sur ces questions-là, sensibilisé, puisqu'on fait de la sensibilisation. Donc, le moins qu'on doit faire, c'est d'être nous-mêmes sensibilisés. C'est vrai que je réfléchis tous les jours à l'eau que je consomme, voir si je peux descendre encore ma consommation, etc. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais j'essaye vraiment d'être le plus économe possible. Et puis, autour de moi, amicalement et de façon bienveillante, j'essaye de toujours prodiguer quelques conseils sans être prétentieux ni donneur de leçons, mais alerter sur des pratiques au quotidien. On est tellement habitué à avoir eu l'eau à profusion, ouvrir le robinet, aller ouvrir sa boîte aux lettres et laisser le robinet couler, ou je ne sais pas, la salle de bain, la douche. Moi, j'ai vu avec les ambassadeurs de l'eau, là, on a constaté chez des gens des débits d'eau de 40 litres par minute. Et donc, j'ai posé la question à Laurent Genot, qui est directeur de la CEBR, donc collectivité eau du bassin rennais, qui regroupe à peu près une cinquantaine de communes sur la région de Rennes, la métropole plus d'autres. Ils font un gros travail de sensibilisation à la question de l'eau, l'économie, etc. Et je lui ai dit, mais écoutez, monsieur Genot, est-ce que les équipementiers de lavabo, etc., sanitaires, est-ce qu'il y a des normes ? Il dit, on a fait une demande de député dans ce sens-là, et pour l'instant, on n'a jamais eu de réponse. C'est-à-dire qu'on voit bien que les politiques ne se sont pas encore complètement saisies de ces questions-là. Et pour le moins, si on avait déjà des normes de contraintes en termes de débit d'eau au niveau des équipementiers, déjà, ce serait un gain non négligeable. Et tout gain sera positif. À tous les niveaux, on me demande souvent si les usagers, s'ils faisaient plus d'économies d'eau, est-ce que ce serait significatif ? Oui, forcément, bien sûr.
Je rajouterais même que c'est plutôt par l'inverse que finalement que les gens apprennent que le débit d'eau, ne serait-ce qu'un d'un pommeau de douche, peut avoir une conséquence. Je dis par l'inverse, pourquoi ? Parce que vous avez tous entendu l'info de Trump. Un des premiers décrets était au contraire d'augmenter le débit des fameux pommeaux de douche. Lui trouvait qu'il n'y en avait pas assez encore qui coulaient dans les douches américaines, sur lesquelles il y a quand même aussi des normes. Voilà, il voulait se passer encore de ces normes-là. Et du coup, les gens, je pense, se sont tous posé la question. Ah oui, tiens, je ne savais pas qu'il y avait une norme effectivement sur ma pomme de douche. Bah oui, il y en a une. Et effectivement, comme dit Christian, elle n'est peut-être pas assez stricte, ou sur un robinet, ou sur une baignoire, voilà, et sans parler des chasses d'eau et dans les toilettes, etc. Voilà, il y a plein d'endroits où effectivement les millions de personnes que nous sommes pouvons économiser quelques litres, 10 hectolitres, et tout ça mis bout à bout, ça fait vraiment un effet. Et puis après, il y a l'industrie et après, il y a l'agriculture, parce que voilà, il n'y a pas que l'usage des particuliers, mais l'usage des particuliers est important.
Et puis l'aménagement urbain aussi, bien sûr, c'est-à-dire permettre une meilleure infiltration de l'eau, récupérer l'eau de pluie. Et commence à y avoir des projets maintenant en habitat collectif où on a des doubles canalisations, etc., pour pouvoir récupérer les eaux de pluie. On a une richesse qui tombe. On récupère très peu d'eau qui tombe, surtout avec l'urbanisation. Et puis aujourd'hui, avec cette agriculture, encore une fois, avec des engins très très lourds qui compactent le sol avec les phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes de battance. Aujourd'hui, 99% de l'eau repart à la mer quasiment aussitôt. Un géographe, Yves Le Bailly, d'ailleurs, qui paraît dans la BD, qui a écrit un livre qui s'appelle Défi pour la Bretagne, c'est sorti en 2020. Il fait une prospective chez Skullvraise. Il me disait, le Meux étant un affluent de la Vilaine, une goutte d'eau qui tombait dans le Meux avant mettait une semaine pour arriver à la mer. Aujourd'hui, elle met 3 jours. C'est QFD.
de la récupération de l'eau. Il ne faut pas que ce soit de l'eau stagnante, sinon ça va attirer les frelons asiatiques.
Ah oui, bah c'est tout le problème de ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les retenues de substitution et puis les retenues collinaires. On ne peut pas en user et en abuser, effectivement, parce qu'on a des phénomènes d'évaporation, on a des phénomènes de sédimentation, et puis on a aussi des phénomènes de rupture de corridors écologiques, donc de continuité écologique. Donc je pense qu'en Bretagne, les retenues de substitution, donc qu'on appelle les méga-bassines, aujourd'hui, ce n'est pas le modèle choisi en Bretagne, notamment par le syndicat dominant. Je l'ai entendu de la bouche même de la vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture. Par contre, les retenues collinaires, oui. Alors donc, c'est à utiliser avec beaucoup de perspicacité, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe où des barrages, n'importe comment. Mais il y a des solutions, effectivement, oui. Mais on voit aujourd'hui qu'on comble des carrières. En 75, c'est 76 plutôt, hein, la grande sécheresse qu'on avait connue. Il y a une carrière pas loin de chez nous qui s'appelle la carrière du Tahin. Bah, elle avait été récupérée par une entreprise de BTP. Elle servait donc de réserve, elle était abandonnée. Elle servait de réserve en cas de grande pénurie d'eau pour tous les agriculteurs du coin. Et donc, elle est comblée et elle va servir en site d'enfouissement de déchets.
J'ai un autre exemple très récent aussi qui fait débat. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse ici dans le 44, puisqu'on est au Sud-Loire, du côté de Saint-Colomban, en l'occurrence, avec des carrières là énormes dans lesquelles je me baignais quand j'étais jeune. Là aussi, réservoir d'eau, etc. Et là, c'est un cimentier qui s'est installé sur ces zones-là, qui non seulement a pompé toute l'eau des carrières, mais qui a creusé encore parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau pour son activité à lui, et qui donc a asséché des nappes, mais jusqu'à 4 km de là, quoi. Et donc, les gens, ils n'ont même plus dans leur puits artésien classique d'eau qui sort du. Parce qu'il y a un cimentier là-bas qui a fait ce boulot-là. Voilà. Alors voilà, là pour le coup, l'industrie, c'est un impact direct, visible.
Et on a un autre phénomène qui n'est pas négligeable en Bretagne, qui alerte notamment les élus de la région Bretagne, c'est ce qu'on appelle les biseaux salés. C'est-à-dire qu'on a une montée sensible des niveaux de la mer, on a aussi des périodes de submersion. On a vu par exemple sur Nantes une nappe donc dans laquelle puisent les habitants de Nantes. Il y en a plusieurs. Cette nappe-là avait été condamnée en 2022 parce qu'elle était contaminée par de l'eau saumâtre. Donc on va avoir de plus en plus des problèmes comme ça auxquels il faut faire face. Donc économisons l'eau et prenons conscience, reconnectons-nous à la source.
On peut citer aussi du retour. Alors ce n'est pas tout à fait pour la même raison. Là. C'est plutôt un phénomène anti-inondation où l'on enlève les dalles qui recouvraient les rivières. Donc ça a été le cas à Rennes. Je crois qu'ils vont le refaire et le continuer à Rennes. Ça a été fait à Quimper. Sur une petite portion, ça va être apparemment étendu. Je pense surtout à Morlaix, qui va bientôt redécouvrir sa rivière de Morlaix, là, en plein cœur de ville, presque jusqu'à la mairie, en tout cas une grande partie de ce grand parking. Et je crois que le fait de voir l'eau, finalement, de se reconnecter à, peut-être, ça a aussi, on espère en tout cas, induit une prise de conscience de la part des gens.
Oui, tu as raison. L'eau, on l'a cachée, on la cache avec les systèmes d'interconnexion en réseau. L'eau, on la voit plus. Je citais l'exemple du robinet. Plein de gens ne connaissent pas le petit cycle de l'eau. Donc c'est vrai que remontrer l'eau, en plus, ça fait des îlots de fraîcheur, hein, puisque l'eau, elle peut en été jouer un rôle aussi d'évapotranspiration locale, créer un microclimat, peut-être beaucoup dire, mais enfin quand même amener un plus. C'est vrai que c'est une bonne chose, oui.
Et porter attention aussi aux déperditions sur les circuits, parce que c'est enterré. On a l'impression que c'est pas notre affaire, quoi. Alors que c'est notre affaire. Voilà, de perdre tant de litres.
Un litre sur cinq,
voilà, qui est parti parce que les tuyaux sont mal connectés. Bah non, donc ça implique que une partie de notre argent public, c'est le bien commun, serve à réparer ces réseaux, à supporter des travaux qui seront valables pour nous et nos enfants plus tard, pour améliorer les choses et réduire cette perte insupportable. Nos stations d'épuration créent de l'eau propre et on en perd 20% comme ça dans la terre.
Merci à Christian Baudu, scénariste de L'Urgence de l'eau, enquête à la source, bande dessinée par Julie Vaux, parue aux éditions Locus Solus. Et merci à Florent Patron, directeur éditorial des éditions Locus Solus, pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
On ne va pas parler des miroirs d'eau.
Au contraire, je pense que ça aussi, ça participe à reconnecter l'humain à cet élément fondamental qui est source de la vie. Donc, c'est bien les miroirs d'eau. Moi, je pense qu'en plus, on en a besoin. Je crois en ville, à Bordeaux, ils étaient bien contents de l'avoir, j'imagine, cet été. Les enfants, ils vont jouer, etc. Donc, oui, la science. Enfin, il y a quand même de l'évaporation. Hein, ça consomme quand même de l'eau. Mais bon, oui. Je pense que c'est utile. Là, ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer de plus scandaleux.
Oui, mais parce que ça boucle.
Oui, tout à fait.